Civil War to fight with Abraham Lincoln Brigade. They were involved in the IWW, the Industrial Workers of the World.
The following is a previously broadcast program.
You're listening to CKUT 90.3 FM.
It's time for Audio Smith. It's time for Audio Smith.
Smith.
A queer, feminist, trans-positive radio show about fucking in all its forms.
Three, four, five fingers.
Let's not beat around the bush. This show contains explicit sexual content.
So turn the volume all the way up.
Oh, that was so hot. I'm gonna pee for you now. You ready? Yeah, you wanna watch me pee? Oh yeah, I'm gonna pee, yeah.
Baby, go closer.
Audio Smut. Where we whisper all the dirty little fantasies and secrets in your ears.
Baby, come closer.
Hey you, come over here and listen.
Il est présentement 6h du soir, vous écoutez Audio Smut sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Je m'appelle Mycelium et je suis présentement avec Minuit et Palina. Donc c'est un peu notre show de bienvenue pour Palina, c'est la première fois que vous allez l'entendre sur nos ondes. Palina fait maintenant partie de l'équipe. On est un collectif de 3 personnes. Donc c'est notre premier show au complet, tous ensemble. Et on a décidé de parler d'un sujet bien rushant pour commencer ça en beauté. On a décidé de parler de la période du temps des fêtes. C'est notre show de décembre. Et puis on sait que c'est... On est tous des personnes queer et ou trans. Et puis... On est conscient que c'est comme une période assez difficile généralement, ou soit vraiment joyeuse, puis vraiment positive, vraiment le fun, vraiment joviale, vraiment conviviale, soit vraiment difficile, vraiment solitaire, avec plein de challenges. Puis on voulait un peu parler de cette tension-là qui existe dans cette fameuse période qui marque le solstice d'hiver, le retour de la lumière, aussi le passage à une nouvelle année. C'est une grosse phase de transition, en fait, le temps des fêtes. Puis on avait un petit peu envie d'explorer ça ensemble. Donc, je laisserai Minuit et Palina se présenter.
Ben, salut tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec une équipe complète. Ça fait longtemps que c'est une petite équipe, mais là, d'avoir une rencontre de différentes expériences, même si on a déjà participé à d'autres projets ensemble par le passé, je pense que ça va être vraiment excitant de pouvoir s'entendre, de suivre dans différents projets. Fait que, bienvenue Palina, je me sens vraiment reconnaissant que tu joignes au projet, définitivement. Puis, ouais, moi, réfléchir au temps des vacances d'hiver et tout ça... on parlait en réfléchissant au spectacle, au show de radio, là, à quel point on avait des visions différentes par rapport à ça, puis que de prime abord, certains d'entre nous sont vraiment rebutés à l'idée de ce temps-là. Moi, au contraire, j'arrive avec un background qui trippe sur ce temps-là parce que la magie de conte de fées, puis une sorte de... Ce que je trouve beau, moi, dans ce moment-là, c'est l'éthos de l'émerveillement, que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'autres périodes qu'on souligne ça. Puis en maintenant, cette sorte de pression culturelle-là à être émerveillé, comme c'est un très lourd fardeau à porter dans certains contextes, surtout pour les personnes qui sont en quête d'appartenance. T'sais. Puis on sait que le thème de l'appartenance, du belonging pour des personnes queer, trans, marginalisées, avec comme différents... vécu de pression dans leur vie, ça devient comme difficile à porter selon les périodes de la vie. Donc, je suis vraiment curieux puis intéressée qu'on parle plus puis qu'on rentre plus en profondeur de pas nécessairement de la relation à la famille biologique, mais ce qu'on avait envie de parler aujourd'hui, c'est de la relation avec la famille choisie, les familles choisies, puis le fait que parfois, c'est pas aussi émerveillant, c'est pas autant un conte de fées qu'on se l'imagine, puis que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on discute beaucoup. Il y a une sorte de dichotomie entre... Ben là, il y a la famille d'où je viens, puis là, il y a la famille que je me suis créée, puis là, c'est un peu comme le mythe de l'individualisme, le self-made queer, le I made my own life, I'm so happy. Sauf que ça prend énormément de travail, t'sais. Puis pour plein de raisons, ben c'est aussi des communauté pour qui l'intimité puis le travail d'être ensemble, c'est comme il y a beaucoup d'embûches puis d'entraves. Fait que qu'est-ce que tu fais quand c'est ce temps-là où est-ce que tout t'amène à te rassembler puis que tu te demandes c'est qui ta famille choisie, t'sais, que tu te demandes de comment show up dans des groupes dans lesquels il y a beaucoup de conflits ou des oppressions. Fait que voilà, c'est un peu avec ça que j'arrive aujourd'hui.
Ben allô, moi c'est Paulina, merci pour l'accueil. Je suis vraiment contente d'être avec vous. C'est un gros sujet pour mon arrivée, mais en même temps ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir l'espace pour en parler parce que ça existe, c'est là, puis c'est nécessaire. Ça me fait plaisir aussi d'avoir une plateforme pour pouvoir partager ces pensées-là parce que c'est pas juste nous qui les avons. J'arrive avec quoi? C'est une bonne question. Je pense que j'arrive avec beaucoup de... Je suis encore beaucoup dans le questionnement puis la réflexion par rapport à comment je gère, comment je vis, qu'est-ce que j'ai besoin pour cette période-là. Pour moi, cette période d'hiver, plus jeune, c'était justement tout ce que tu dis, minuit, qui est plein d'émerveillement, plein de... C'était de la famille, c'était beaucoup de gens. Mais en même temps, c'était beaucoup de façades, plein de gens que je voyais une fois par année, puis qu'il y a plein de tabous, de non-dits, puis même des relations très violentes entre les gens, mais qu'on n'en parle pas, mais on sait qu'ils existent. Puis au fil des années, mais on se retrouvait de plus en plus, de moins en moins, en fait, à la table. Puis en laissant vraiment en créant une séparation entre ceux qui ont des traumas, puis qui ont une lourdeur, puis entre ceux qui sont meilleurs pour moi le faire paraître. ben moi, je me retrouve dans tout ça où ce que j'ai envie d'être honnête avec tout ce qui est de où ce que je viens puis tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc le milieu familial, c'est pas vraiment nécessairement possible. Mais en même temps, je réalise que c'était tellement c'était overwhelming tout ça. Puis de ce jeu où ce que comme tu peux pas être honnête dans le fait qu'il y a des gens qui taillent à la table ou qu'on n'est pas bien ou qui ont commis des violences. Puis t'as pas envie de les voir. Comme ça brise cet émerveillement. Je pense que j'ai arrêté de dire ce mot-là. Ça brise cette magie qu'on est censé avoir. Puis je réalise avec le temps que j'ai envie de heal, j'ai envie de guérir. Puis c'est pas dans ce lieu-là que je vais l'avoir. Puis j'ai envie de retoucher à cette magie-là, fait que j'ai envie de comprendre comment. Puis plus ça va, peut-être que c'est un moment où ce que je prends une pause du monde, où ce que je me retrouve complètement seule. Mais là, justement, cette pression sociale de souper, de rencontres, de fêtes, de luxure, de beuverie, de fêtes, de souper, ben, comment on fait pour simplement, encore une fois, imposer nos limites puis s'accepter là-dedans? Et c'est tous ces questionnements-là que j'ai envie d'ouvrir avec vous aujourd'hui autour de ce micro, mais aussi avec les gens qui nous écoutent. Ouais, j'arrive avec ça, j'arrive avec des questionnements, des réflexions, beaucoup plus que des réponses.
Merci à vous deux. Un peu pour finir le tour de table de c'est quoi notre relation avec Noël. Ben moi, je dirais que entre nous trois, je suis probablement la personne qui l'haït le plus cette période-là. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse esthétiquement. J'aime pas la musique de Noël, j'aime pas les couleurs de Noël. J'aime pas vraiment la symbologie générale. Et depuis plusieurs années, j'ai pas vraiment de contact avec ma famille. Donc, c'est aussi une période qui rentre vraiment le marteau dans le clou d'à quel point ma situation relationnelle, interpersonnelle, familiale est différente. Et où il y a évidemment, en conséquence, il y a évidemment pas mal de solitude aussi. Et d'introspection dans cette période-là. Donc, c'est un peu une épreuve, un hiver de force pour moi souvent, ce deux semaines-là. J'ai hâte que ça finisse. Et en fait, la stratégie pour moi, ça a vraiment été de développer des réseaux forts d'amitié, trouver des moyens de faire des soirées intentionnelles qui rendent ce moment-là magique malgré tout, t'sais.
Comment est-ce qu'on tout le monde parle de choisir sa famille choisie, mais personne parle en détail. Moi, j'ai jamais entendu de conversation précise par rapport à comment on négocie ces relations-là, comment on choisit, comment on sait que c'est elle, la famille choisie, t'sais. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'investissement? Est-ce que c'est la réciprocité? Quoi faire si t'as plusieurs familles choisies? Quoi faire si t'en as pas, en fait, parce que t'as de la misère à vraiment être vulnérable avec ces personnes-là? Quoi faire si t'es toujours un peu en périphérie de plusieurs familles choisies qui, pour quelque raison, semblent continuer leur chemin sans toi? Quoi faire si la famille choisie se brise en deux? On n'a pas de médiateur de divorce de famille choisie. Comment est-ce qu'on sépare les avoirs? Comment on négocie les espaces dans les communautés qui sont déjà tellement petites puis qui sont portées par des personnes qui ont tellement besoin d'acceptation puis d'amour puis comme tout le monde, là. Puis ça me fait réfléchir à qu'est-ce que tu disais. Il y a quelque chose dans ce que tu disais, Palna, qui m'a fait réfléchir à quelque chose. Je me répète. Qu'une de mes amies, Pascale Brunet, me partageait par rapport au bien-être collectif. C'est la personne qui m'a amenée à réfléchir il y a plusieurs années à ça, puis elle nous faisait réfléchir à quand on est en train de bâtir des mouvements sociaux, réfléchir à qui est pas à la table, t'sais. Qui est même pas autour de la conversation, puis on dirait que ça me fait penser à ça, la famille choisie, t'sais, quelle sorte de dynamique ou de capital social ou d'autres formes de pouvoir puis de privilèges fait en sorte que il y a certaines personnes qui sont à la table puis d'autres personnes qui ont pas accès à ce genre de profondeur de lien ou d'intention ou à ces capacités-là, à cette appartenance-là. Puis qu'est-ce qui fait que quand il y a des conflits, certaines personnes s'en vont puis que d'autres personnes on reste autour ou en train d'investir certaines relations puis pas d'autres. Qu'est-ce qui se passe dans ces choix-là? C'est des questions que je me pose.
Ça me fait penser au fait que, comme, je pense que je me suis toujours sentie à la table des enfants, comme autant dans la famille, tu sais, à la personne qui n'a pas nécessairement de poids dans les décisions de comment ça se passe. Si j'ai pas envie d'un gros Noël comme ça, c'est pas grave, suis. Si je trouve qu'il y a des personnes qui me font vivre des violences, puis j'ai pas envie de les voir, c'est pas grave, suis. Puis c'est un peu la même chose dans mes familles choisies. Je trouve que, comme, vu que j'ai beaucoup déménagé, puis que c'est un concept que je commence à développer, puis j'ai jamais eu vraiment de gang précise. J'ai jamais eu les compétences nécessaires de grossir ce gang-là ou d'investir. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup de temps seul. Puis souvent, les familles choisies, il y a beaucoup d'être tout le temps là ou de grossir ou de l'investir vraiment. Puis ceux qui qui sont moins là, ben justement, ils prennent un peu le bord dans les décisions, dans la place, un peu comme tu parles. Puis moi, ça me fait penser au concept de la table d'enfants. Tu sais, les enfants qui font juste suivre, qu'on les impose qu'est-ce qu'ils mangent, on les impose qu'est-ce qu'ils écoutent, on les impose les gens qui veulent pas voir, les gens qui sont en surconsommation, qui te serrent les joues puis ça te tente pas. Puis ouais, je réalise que même dans ma famille, dans les familles choisies, ben je me sens à la table des enfants, ou je me sens un peu la personne en pouvoir dans comment les choses se passent. Puis que je fais juste accepter que ça doit être une grosse fête, que ça doit être des soupers et tout ça. Tandis que peut-être ce que je veux, c'est pas ça exactement. Puis là, ça comme... Je me retrouve quand même dans une espèce de dichotomie où que, il y a qu'est-ce que ça doit être, puis qu'est-ce que je veux vraiment. Puis j'aime pas... C'est pas que j'aime pas nécessairement qu'est-ce que ça doit être. C'est comme j'apprécie les soupers, j'apprécie les groupes. Du moins, je pense que j'apprécie. Je suis encore justement en réflexion, en questionnement avec moi-même, si est-ce que je veux complètement ça. Ouais, ça me demande ça.
Ben, moi j'ai honnêtement un rapport assez positif à la question de la famille choisie pour l'instant. Je pense que c'est des trucs qui sont assez mobiles en fait dans une vie. Je pense beaucoup à l'âge et à l'âgisme ces temps-ci, je pense, parce que j'entre dans cette espèce de phase la fin vingtaine où mon corps lâche, puis où je suis plus invincible, puis où je c'est ça, je pense que je réfléchis plus au fait qu'on est tous vieillissants constamment, tu sais, puis que les choses changent à différentes étapes de nos vies. Je connais des gens qui sont enceintes en ce moment, qui vont avoir des enfants, ça change le rythme de tes amitiés aussi. Puis évidemment, on sait que les années vivent beaucoup de solitude, d'isolement et tout ça. Donc je veux pas, je touche du bois que mes relations amicales demeurent aussi nourrissantes et plaisantes qu'elles le sont en ce moment, tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'en fait, ça m'a réconcilié avec le concept d'interdépendance. Et de community building, le fait d'avoir des groupes d'amis qui se serrent au point de s'appeler family. Puis c'est peut-être justement parce que j'ai un tel rapport compliqué avec ma famille de sang, tu sais, qui a nécessité des coupures, qui fait que c'est comme pas juste un choix, mais une nécessité, tu sais, mais c'est ça, je pense que pour moi, ça, je donne et je reçois beaucoup de soutien. Puis je suis vraiment, autant que justement c'est une période difficile, c'est sûr, le mois de décembre, autant que je peux pas m'empêcher d'avoir énormément de reconnaissance pour ces gens-là. Mmh. On va prendre une petite pause musicale. Il est à peu près 6h25. On se voit imminemment.
On va maintenant écouter Thames avec la chanson Free Mind. Et par la suite, on va écouter Ain't Got No de Nina Simone.
To fight for my earnings. Fear in my mind is a warning. Pray to the one you're relying. I've been wandering all day. I tried to be fine, but I can't be. The noise in my mind wouldn't leave me. I tried to get by, but I'm burning. I mean, my mind, it runs. All these thoughts are troubling. Fighting to give up my pain. Fighting to be on my lane. My mind running to the to take me out. right yet. I really need time. I need to free my mind. I really need my love. I need to free my mind now. You cannot buy. Send me love that you cannot mix. One is the joy that you cannot waste, and the other one price that you cannot fix. This is the peace that you cannot buy. Finding a way where you cannot see. Mind with this system, you cannot pray. I need to find relief. But behind my mind, it runs. All these thoughts have trouble names. Funny to give up my bed.
Allô, allô, ici Palina qui vous parle. Vous écoutez Odious Mode sur les ondes de CKUT au 90.3 FM. Et on est en train de vous parler de la période de l'hiver, ces vacances d'hiver.
Oui, donc c'est le spectacle de décembre. Puis juste avant la chanson, on parlait des enjeux par rapport à la famille choisie. Puis j'avais envie de rebondir avec ce nouveau segment-là en parlant de faire du pouce sur ce que tu disais, Miss Allium, que définitivement, comme c'est quand même un privilège puis une beauté d'avoir des familles choisies, puis que ça peut prendre aussi des formes vraiment différentes, puis que c'est cette diversité-là ou ce choix-là qui est vraiment beau. Je pense que moi, je me sens extrêmement reconnaissante d'avoir autant de personnes que je considère un peu comme de la famille dans ma vie. Mais ça m'amène deux pensées. Je pense que comme pour quelqu'un qui a vécu tellement de solitude chronique dans sa vie puis dans son enfance, d'avoir été un enfant, un gay closeted kid, et puis d'avoir passé tellement de temps seul alors que tu aurais voulu être accompagné, que ce soit avec tes amis ou en famille, le fait de se sentir choisi, c'est toujours quelque chose de difficile. T'sais. Donc dans cette période-là, que c'est le moment d'être choisi, c'est dur pour moi de faire confiance à 100%. Fait qu'on dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme, oui, ces personnes-là, je le sais qui sont là, je sais qu'ils sont présents. Puis on dirait que parfois, j'aurais voulu que ça soit, qu'on ait des outils pour en parler plus ou le nommer plus, venant d'une expérience de famille où est-ce que justement, on était là, mais qu'on n'en parlait pas vraiment. Les gens sont là physiquement, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour avoir comme des conversations sur émotionnelles, tout ça. Définitivement dans mes groupes et dans mes relations individuellement, c'est très présent, mais en groupe, parfois c'est un peu, ben, tant que tout le monde est autour de la table, tant mieux, c'est ça qu'on veut. Et je me demande comment est-ce qu'on introduit là-dedans des façons de prendre soin ou de choisir collectivement, d'avoir une intelligence émotionnelle collective à propos de comment on crée un monde futur pour que tout le monde se sente vraiment appartenir, puis pas juste aller dans le flot de ce qui est normal, parce que souvent, en tout cas moi, je viens d'un contexte où est-ce que le normal, c'est pas un normal avec un monde affectif très très développé. Puis en même temps, juste le fait d'être, c'est un de mes amis que j'aime beaucoup qui disait ça, mais juste le fait d'être, d'avoir la force puis la conscience de vouloir être tout le monde autour de la table, peu importe ce qui arrive, peu importe les conflits, puis d'être quand même là, c'est une richesse que je trouve indélébile, tellement belle. Et je me dis, c'est quoi la prochaine étape? On dirait que c'est un peu ma question.
Ça m'amène à me demander, tu sais, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, à quoi on peut réfléchir collectivement, c'est quoi les prochaines étapes avec tout le monde autour de la table. Mais est-ce qu'on prend le temps de discuter de comme qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui rend des gens qui se sentent plus isolés. Puis j'aurais envie de vous entendre sur les choses qu'on parle pas assez dans cette période-là, qui va probablement ou qui peut ou qui tout simplement isole des personnes, puis qu'on devrait prendre le temps de nommer. Est-ce qu'il y a bizarre des trucs en tête?
Mais moi, c'est sûr qu'il y en a un problème majeur qui réémerge à cette période-là, c'est sûr. C'est la question de la grossophobie, la nourriture, disordered eating. Toutes ces questions-là, je trouve qu'elles sont vraiment brassées dans le cocktail shaker au temps des fêtes. Pour plein de raisons. Tu sais, il y a justement la question de manger ensemble, de souvent avoir comme, de faire abondance, d'avoir beaucoup de victuailles, de beaucoup boire d'alcool, de beaucoup manger de dessert. Puis toute cette espèce de moment-là où on mange ensemble, donc en public en quelque sorte. Je sais que vous avez mentionné, j'ai entendu d'autres mondes aussi parler de commentaires de leur famille. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu, mais je me souviens de qu'est-ce que c'est. J'avais une prof d'éducation physique qui nous faisait faire du sport en nous disant pensez à votre deuxième portion, là, pensez à votre bûche, tu sais, puis qui essaie de nous faire sentir coupables de justement de give in à ces tentations là, tu sais. Donc, il y a toute la question de la nourriture en groupe, tu sais, qui est tellement comme un plaisir, en fait, puis tellement une façon de créer des liens forts. C'est un aspect essentiel de n'importe quel movement building, c'est s'asseoir en gang et manger. c'est full important. C'est vraiment beau, mais c'est aussi vraiment challengeant. Puis je peux pas prétendre non plus que... Je veux pas, en parlant de grossophobie, je veux pas prétendre que j'expérimente énormément de marginalisation par rapport à ça. Je suis dans une espèce d'entre-deux où je suis souvent, très souvent, la personne la plus grosse à table, mais que je me qualifierais pas de personne grosse. Je vis pas des marginalisations là, sociales par rapport à ça. Fait que je veux juste être transparent par rapport à ça, puis mettre un grain de sel dans ce que je dis, mais c'est définitivement... Tu sais, je pense que la question du disordered eating, de l'alimentation troublée, c'est un spectre que tout le monde est là-dessus. Tu sais, à ce point-ci, on a tous un certain rapport à notre corps, la façon dont il est perçu, la façon dont on doit l'entretenir, les choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire avec. C'est vraiment réactivé pour moi dans la période du temps des fêtes. Fait que c'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Puis je sais pas si pour vous aussi.
Mais pour moi, c'est comme... Je t'écoute parler, puis j'entends vraiment, en fait, tout ce qui a rapport avec la culture de la grossophobie. Si on oublie qu'on est dans une société où on cultive vraiment le fait d'être grossophobe, puis le fait de justement commenter combien d'assiettes qu'on mange, ou de commenter, tu sais, tout le monde se met beau, belle, puis là, on commente le corps, on commente comment on a maigri, comment on a grossi, puis tout ça, pour moi, ça cultive la grossophobie. Puis les gens qui vivent cette grossophobie-là, parce qu'ils entendent ces commentaires-là, puis après, les gens qui ont peur de devenir des personnes grosses, qui continuent de cultiver encore une fois la grossophobie, parce qu'en mangeant, donc là on prend soin de manger, ou on va se déculpabiliser que là on a le droit, puis qu'on va faire plein de sport après, un peu ce que tu disais avec ton prof d'édu. Puis c'est quelque chose que avant que tu le nommes maintenant, on dirait que j'aurais pas mis ça si clair que c'est de la grossophobie, mais maintenant ça m'apparaît vraiment clair, tu sais. Puis même, t'as pris le temps de nommer aussi par rapport à les troubles alimentaires. On dirait que j'avais pas, avant cette discussion-là, pris le temps de remarquer à quel point ça pouvait être triggerant pour des personnes qui ont des troubles alimentaires d'aller dans des situations où ce que c'est la nourriture qui est mise de l'avant, manger ensemble. C'est quelque chose qu'on oublie. Puis pour moi, encore une fois, là, comme ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour que tout le monde soit à table? Ben, les personnes avec des troubles alimentaires, les personnes qui sont victimes de grossophobie, ben, on les met pas à table si on est comme ça. Donc pour moi, ça serait de repenser à comment on peut faire attention à tout le monde pour que tout le monde soit à table puis se sente bien. Puis on dirait que ça, c'est un point important de faire attention à comment on agit, puis à quel type de souper pour que tout le monde se sente à l'aise. C'est peut-être que ce soit pas tout le temps porté vers la nourriture, que des fois il y a des lieux où on n'est pas en train de consommer, puis que les gens peuvent venir à différentes étapes. Pas parler du corps des gens, ça c'est juste un fait tout le temps. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Mimi.
Mais moi, on dirait que ça, où est-ce que ça m'amène, c'est de réfléchir aussi à cette culture-là de la démesure là, du temps des fêtes. Je pense que pour moi, le temps des fêtes, c'est associé aussi à vraiment beaucoup de peur intense par rapport à la consommation. Je pense que tout le monde a un rapport vraiment différent à ça, puis c'est comme, je pense qu'on est tous sur notre propre chemin, puis qu'il faut faire de la place pour n'importe quel, pour toutes les relations qui se passent par rapport à ça. Mais définitivement, moi, je pense que c'est toujours quelque chose qui est un peu en arrière de ma tête quand ce temps-là arrive, puis de voir comment est-ce que on partage les espaces avec différents rapports à la consommation, à l'alcool, à différentes choses.
Oui, ne pas isoler les gens. T'sais, même nos amis sobres, les gens sobres célèbrent aussi, mais il faut que ça soit un lieu safe pour eux, puis faire attention à ça.
Puis en même temps, il y a d'autres personnes qui, pour eux, c'est c'est important, ça fait partie d'un rapport de harm reduction, de consommer, puis de ouais. boire, puis de mmh. reconnaître que ça aussi, c'est comme c'est important, mais comment est-ce que cette rencontre-là se passe? Comment est-ce qu'on en discute? Je pense que c'est une question d'être transparent puis d'être ouvert par rapport à où est-ce qu'on se situe, de faire attention à nos préjugés puis à nos jugements, parce que c'est sûr que quand on a des peurs ou par rapport à certains trucs, on tombe un peu sur la défensive, puis ça, c'est des mondes qui s'entrechoquent
ouais.
parfois, mais comme c'est des sensibilités à être au courant, mais je pense pas qu'il y ait une morale ou une règle toute faite de comment donc avoir un souper parfait parce que tout le monde est à l'aise. Je pense que qu'il y a un certain niveau d'inconfort, c'est quelque chose de ben donc comme qui va probablement arriver là, mais
mm-hmm.
c'est ça. Comment ouvrir la conversation à des expériences différentes là, c'est pas ça que ça me fait penser là.
Oui. Ça m'amène à penser, quand on pense aussi d'être collectivement tous à la table, souvent on parle de fêtes, comme on célèbre une fête, donc on parle souvent de Noël. Il n'y a pas tout le monde qui est religieux, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec tout ce qui se passe en ce moment. Je trouve que c'est important qu'on le nomme par rapport aux communautés autochtones. C'est cette religion-là qui a tué énormément de personnes, puis c'est présent en ce moment. Donc là aussi, je trouve que c'est de penser sur quelle énergie qu'on met à cette célébration-là. Est-ce que c'est des vacances où on prend le temps de se retrouver entre amis choisis, ou se retrouver avec soi-même? Mais des fois, de simplement imposer que c'est une célébration de Noël, je trouve encore une fois, on isole certaines personnes, où on peut faire éveiller des triggers chez des personnes. Puis ça aussi, ça va mettre à la table quand on parle, je trouve.
Mm-hmm. Ouais, puis en fait, ça peut devenir une opportunité pour le contraire, en fait. Comme un peu, j'ai l'impression que Thanksgiving, veut pas, en quelque sorte, est un peu devenu une opportunité d'apprentissage annuelle pour beaucoup de gens, plus que... C'est très mal vu, en fait, dans mes cercles, personnellement, de célébrer Thanksgiving. Je connais personne qui le fait, tu sais. Puis en fait, c'est plutôt une semaine où, généralement, les gens s'éduquent. Je sais pas s'ils lisent des livres, mais ils regardent des documentaires, ils lisent des articles, tu sais, puis... Mmh. Où ils se parlent un peu entre eux du génocide, des génocides.
Mmh.
Et puis c'est ça, peut-être qu'en quelque sorte Noël pourrait devenir aussi, ben justement le temps des fêtes. Tu vois mon mon réflexe, mon habitude, j'ai été élevé ici là, d'appeler ça Noël. Ça peut devenir une opportunité aussi de parler du rôle de l'Église dans la colonisation, puis dans juste comme la l'abus sexuel dans l'enfance, tu sais. Récemment le Vatican a été comme complètement acquitté de toute responsabilité par rapport à ça. Ça a été un jugement qui a été donné cette semaine, puis j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, parce que c'est comme Il y a jamais de structure de accountability possible avec l'Église, ce qui fait que c'est juste dommage, parce que finalement ça le texte en lui-même est intéressant, tu sais. Moi je l'aime bien, Jésus-Christ, pour être bien honnête, tu sais, puis mais les choses qui ont été faites au nom du Christ sont ignobles, tu sais, puis sont indignes de tout bon chrétien, tu sais, donc donc c'est ça, ça pourrait être une opportunité d'avoir ces conversations-là difficiles, nuancées, across different types of faith, à travers des gens qui ont faith, qui ont une autre faith et qui sont faithless aussi, tu sais. Ça serait vraiment une opportunité fun de parler de ça, et pourtant c'est un sujet hyper tabou, en fait. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant que tu t'amènes ça sur la table, puis... Je suis d'accord que c'est comme... C'est justement là, on enregistre pendant la semaine de Hanouka, tu sais.
Mm-hmm.
Puis à quel point il n'y a pas d'organisation sociale et de break généralisé pour... C'est que je connais à peine les traditions que ça implique, tu sais, alors que je connais de long en large, tu sais, les traditions de Noël. Fait que, en tout cas, c'est juste une bonne question que tu as amenée, puis j'ai pas vraiment de réponse, mais ça m'intéresse, ça.
Absolument, et puis minimalement, de comme critiquer l'hypocrisie totale de l'État québécois, qui va mettre de l'avant la laïcité à tout prix, mais qui va jamais, on le dit, mais il faut le redire, parce qu'à part dans les radios indépendantes, on l'entend pas, en fait, cette critique-là, du fait que ben, mine de rien, comme toute notre culture est catholique, tu sais, si au moins il y avait... Le minimum, ça serait d'être honnête, tu sais, puis de dire comme clairement, ben oui, définitivement, bon, vous avez beau être rendu ailleurs dans votre rapport à la religion, l'État n'est pas laïque, comment est-ce qu'on fait pour... Mmh. Être honnête par rapport à notre position, de où on vient, pour être capable d'aller dans la rencontre, en fait, puis de faire de l'espace à d'autres façons d'être. Parce que si tu mets de côté complètement ou tu neutralises d'où tu viens, puis que tu fais comme si de rien n'était, ben c'est facile de faire la même projection, puis de dire, ben dans ce cas-là, on voit rien, on voit plus aucune religion, aucune autre spiritualité. Alors que tout dans cette période-là est catholique, t'es, que ce soit... la culture nord-américaine qui met de l'avant le pardon ultime, la rencontre amoureuse, tous les films de Noël comme ont une marque assez profonde sur comment on conçoit cette fête-là. T'sais, c'est les valeurs chrétiennes qui sont là. Puis je pense que c'est important d'être honnête par rapport à d'où on vient pour être capable de s'ouvrir à autre chose, comme je sais, comme de faire la rencontre. Là.
Mm-hmm. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours un profond malaise de même se retrouver en famille quand on parlait pas de ça, puis comme pourquoi on se rencontre ici, on n'est pas pratiquante, mm-hmm. c'est pas clair, puis que je tends vers une espèce de solitude pour peut-être plus tard revenir en groupe, mais revenir en groupe avec une fondation claire de qu'est-ce que je célèbre. Est-ce que je célèbre la rencontre d'une fin d'année qui approche, puis une rencontre avec plein d'autres gens, qui est marquée par le fait qu'il y avait Noël avant et tout ça, mais maintenant je l'ai développé ailleurs. Est-ce que je célèbre justement l'hiver, tu sais, qui arrive vers le 21 décembre et tout ça, les changements d'heure? Pour moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de trouver un chemin où ce que ça va être clair, puis après je vais être plus à l'aise à savoir comment je le fais, puis avec qui je le fais. Mais en ce moment... Ouais, c'est ce qui me reste dans plein de questionnements, puis qui me met un profond malaise à chaque fois que je me retrouve dans un lieu parce que je comprends pas pourquoi je suis là. C'est pas clair pour moi.
Je pense que pour moi, je me sens plus en paix par rapport à... J'ai fait quand même du travail dans les dernières années par rapport à mes origines religieuses et spirituelles, puis on dirait que je me sens plus en paix avec ma culture catholique en ce moment. T'sais. Puis même des fois, on dirait que même si j'ai été très en opposition avec ça, comme en grandissant, en ce moment, je me sens curieuse. T'sais. Je me dis, bon, ben, ça fait partie de mes origines culturelles, puis j'ai envie d'être en conversation avec, de pas juste complètement, moi personnellement, de pas juste comme le mettre à la poubelle en disant j'ai honte, c'est dégueulasse, comme ça fait partie de moi, puis si je le regarde pas dans le blanc des yeux, ben ça a un impact sur mes comportements quand même. Donc moi, dans les dernières années, ce qui fait en sorte que maintenant j'aime autant cette période-là, malgré les deuils, malgré les émotions difficiles ou les attentes que ça peut créer, c'est que pour moi, j'ai reconnecté avec l'intention, en ce que moi j'ai trouvé un sens à ça, qui était un sens de... Ça me parle, en fait, les valeurs de reconnaissance qu'il y a autour de cette fête-là, de célébrer, de remercier les gens qui sont avec nous, puis de s'inscrire dans un système de réciprocité. Pour moi, oui, il y a toute la culture capitaliste nord-américaine, mais il y a aussi comme le symbole de l'offrande, le symbole du roi mage, c'est de s'inscrire dans un système de réciprocité puis de se remercier pour la présence qu'on a les uns avec les autres. Donc, il y a ça que je trouve beau. Il y a le fait de trouver l'essentiel dans l'amour puis dans la présence. Puis donc, le pardon. Tantôt, j'en parlais en mode blabla. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau que malgré les tensions, malgré les inconforts, parce que c'est cette période-là, on met ça de côté. Parce que ce qui est le plus important, c'est l'amour qu'on se porte. Peu importe où est-ce qu'on est, puis ça, c'est quelque chose qui me touche comme valeur, parce que je pense que dans ma famille, c'est important quand même que malgré tout, ben, on est présent même si on arrive tout croche.
Oui. C'est clair qu'il y a une notion de fin de cycle, puis une fin de cycle, pour moi, c'est le début d'un autre cycle, puis c'est bien de reconnaître les choses, de se retrouver. Ouais, il y a une quête de trouver son sens, en fait, puis de trouver le tien.
Oui, puis après ça, c'est juste de, comme, de faire en sorte que tout le monde autour de la table est capable d'avoir l'espace de trouver leur propre sens, puis que ça soit pas enfoncé dans le fond de la gorge.
On dirait que j'entends ça, puis j'ai des réflexions qui sont trop longues pour, pour les 5 minutes qui nous restent, mais... Je suis comme, on dirait que c'est comme mon idéal, tu sais, qu'on puisse tous, across differences, gather around the table, puis être unis par l'amour, tu sais. C'est comme vraiment mon idéal, mais j'ai un peu l'impression, peut-être que c'est mon genre de cynisme, ou justement une projection de mes propres problèmes par rapport à la famille de sang, tu sais, mais des fois j'ai l'impression que ces moments-là, c'est aussi des opportunités de comme être dans le déni de différences fondamentales, tu sais. Puis de tolérer des choses intolérables, tu sais, pour le bien de comme le wholesomeness là, de l'expérience ou de, tu sais, il faut donc célébrer, tu sais. Puis souvent j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que mes amis qui ont des familles puis qui vont dans des soupers de famille me témoignent, c'est ce malaise là ils sont comme, ah bon, il va encore falloir que je mette un masque, tu sais, puis que je fasse semblant que je suis correct avec telle chose que telle personne dit, tu sais. Puis fait c'est ça, j'ai comme un genre de... Moi aussi, j'aimerais donc ça pouvoir, genre, ouais, pouvoir avoir accès à ce genre de lien-là, où on priorise l'amour across differences, mais dans ma propre vie, ça n'a pas tant été possible, puis je constate que pour ceux pour qui c'est possible, ça allait seulement, à coup d'hypocrisie, en fait. Puis, ou pas tout le temps, là, mais souvent à coup d'hypocrisie. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment juste... ça m'a juste allumé ça, puis on peut le couper au montage.
Je trouve ça vraiment important que tu le nommes, puis je pense que ça fait partie de la conversation. Puis merci de le dire, absolument. Là.
Je me sens au milieu de vos deux idéologies. Est-ce que c'est des idéologies? Je sais pas. Vos deux façons de vivre tout ça. Je suis vraiment au milieu. Je l'ai dit, je suis arrivée avec des questions, des interrogations. Je sais pas où me mettre tout. Je vais rester à la table des enfants qui pensent pas à tout ça.
Oui, puis tu sais, moi, ce que je dis, moi, j'ai plus vraiment... Je vais pas dans les fêtes dans ma famille élargie d'aucun côté. Là.
Ouais.
Dans le sens que, comme, je pense pas que c'est de tolérer la façade. Il y a une manière d'être authentique puis de choisir avec qui on permet ces vulnérabilités-là.
Ouais.
S'en aller, c'est toujours correct quand ça fait pas du bien.
Mm-hmm.
Juste le dire, là.
Ouais. Ou même pas y aller puis rester chez soi.
Ouais, pas y aller.
Bain, là, tu sais.
Ouais. Trouver ta manière de vivre ce moment-là qui te fait du bien, tu sais. Ouais, puis tu peux changer à la dernière minute pour y aller ou pas y aller ou pour partir.
Aller dans une cabine, dans le bois, tout seul, en forêt, hein?
Oui, moi, ça a été mon meilleur temps des fêtes où je suis partie pendant exactement les dates où il y avait toutes les soupers, puis j'étais je suis occupée, puis j'étais tout seule. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Je faisais du feu, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré. Puis, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait tellement du bien. Tout ce qui me gossait n'était pas là. Puis, je prenais soin de moi. Je lisais, j'étais pas overwhelmed. Mais il y en a plein de méthodes là, d'être tout seul ou d'être en groupe. Tu sais, oui, il y a des cabines, mais après, tout dépendant si on se sent en crise, il y a des centres de crise. Tout dépendant si on se sent, si on a besoin de recueillement, tu sais, il y en a d'autres, genre des retraites de groupe plus thérapeutiques. Il y a vraiment plein d'autres méthodes qu'on devrait prendre le temps de parler. Si quelqu'un c'est de faire un appel à tel jeune toute la soirée, ben ça existe, les centres d'appel sont là. Puis tout devrait être valide, puis être testé selon nos besoins, tu sais, je pense.
Mm-hmm. Ben oui, merci Pali. Puis donc, pour conclure notre émission de décembre, notre dernière émission de 2021.
Oh, ouais. Oh là là!
Est-ce que vous avez quelques mots qui sont un peu comme votre souhait ou votre antidote pour les poisons de ces périodes pas toujours évidentes?
Écoutez-vous, je pense. Écoutez-vous si vous avez vraiment besoin de ne pas être seul, parce que aussi être seul, ça peut être dangereux. Écoutez-vous si vous avez besoin d'être avec des gens. Essayez de demander de l'aide, essayez de demander des besoins précis pour demander de l'aide, pour peut-être trouver la solution précise pour cette période-là, ou pour expliquer c'est quoi votre besoin dans cette période-là. S'il y a des gens qui peuvent vous rejoindre au juste milieu. C'est vraiment de vous. Écoutez-vous, je pense. Il n'y a rien qui est obligatoire.
Ben moi, une des antidotes dans les dernières années, ça a été de célébrer avec des amis Now Hell, qui est un peu comme un genre de anti-Noël, gosse, vaguement sataniste. puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment emo. Ça me permet de un peu aller all-in de façon cérémoniale, puis drôle, tu sais. Dans l'espèce de sentiment comme gloomy du temps des fêtes, puis d'en rire un peu. Ça a été un bon antidote pour moi, définitivement. Puis je dirais à nos auditeurs de manger qu'est-ce qu'ils veulent manger, puis de ne pas se poser trop de questions. Je pense qu'un truc important à se rappeler pour ceux qui sont seuls, puis qui ont ni famille biologique, ni famille choisie, ni chum, ni blonde, c'est que il y a des formes de connexion qui sont tout le temps disponibles, tout le temps, partout pour tout le monde. Il y a la nature qui nous soutient, puis qui nous tient comme un bébé, puis qui nous donne beaucoup, puis à qui on peut give back. Pour ceux qui ont des animaux, je veux dire, c'est tellement beau de co-réguler avec un animal. Je regarde mon chien en ce moment, qui fait dodo, qui nous accompagne depuis le début de l'enregistrement. Puis je sais qu'elle va être une vraiment bonne compagne cet hiver. C'est ça, tu sais, il y a comme. On n'est pas obligé d'avoir un gros souper, puis un gros party du Nouvel An pour se sentir connecté, puis avoir. Des relations vraiment belles et saines. C'est ça que je dirais.
Ouais, et puis moi, en concluant, je pense que souvent, au cœur de toutes ces célébrations-là, il y a aussi la glorification de l'amour romantique, où est-ce qu'on se dit, même si on est dans des familles choisies, même si on va dans nos familles biologiques, on a ce duo-là qui est en fait le noyau nucléaire de toute l'expérience, le vaisseau. Puis moi, j'inviterais les gens à être romantiques avec eux-mêmes, à être romantiques avec leurs amis, à prendre des nouvelles, à s'inviter, à se choisir, puis à investir dans des réseaux d'amour réciproque, d'être authentique puis intentionnel avec au-delà de qu'est-ce qu'on perçoit comme étant l'amour le plus légitime et valide qui existe. Fait que sur ce, cher public, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se revoit en 2022.
Oh!
Bye! À l'année prochaine!
À l'année prochaine! Puis merci à Paulina d'avoir relevé le défi du premier show. Yeah! Ok, bye là.
C'est tout pour notre émission de décembre 2021 de Audio Smut. On vous laisse avec la chanson Fellowship de Serpent with Feet. Et on se revoit en 2022. Salut!
Thames in July with you. The cannon of Baltimore tales. Our crafty looks when there's nothing to wear. Maybe it's the blessing of my 30s. I'm spending less time worrying and more time recounting the love. More time recounting the love.
Knocking on the right door. If you're looking for something, well, refreshing, you're tuned in to the right station. You're listening to the coolest station in Montreal, 90.3 FM on your dial, the alternative station, the one that gives you a choice and a voice. CKUT, stay tuned.
Are you age 65 and over? Now's the time to make your appointment for your booster dose against COVID-19. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID-19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the Gouvernement du Québec.
Good evening and welcome to Amanla, 1 hour of African current affairs and analysis brought to you on CQT 90.3 FM here in Montreal and CQT.ca around the world. Doug and I are sitting in our virtual, well, in our homes, which have become our virtual studios for the production of Amanla. Doug, you have a nice show lined up, so let us know what's going on.
Well, Gwen, two things. We've been getting some marvelous resources together from friends and comrades and the connections. Yassine Mansour has sent us a link to a book launch in South Africa, The Red Road to Freedom, The History of the South African Communist Party. So I'm going to play a little part of the book launch that Yassine pointed out to us. It's an important and significant party and an important time in their history as well. And secondly, we're going to play a second part, two more interviews from the guerrilla Africa-China panel that was held two Sundays ago, and which I think really contained some wonderful insights. Some many mistruths and misinformations were corrected, and a whole other perspective painted of that relationship. And it was held by GRILA, Group for Research and Initiatives for Liberation of Africa, in Toronto.